spectateurs et spectatrices, mais aussi auditeurs et auditrices, puisque je le rappelle, la discussion est enregistrée pour la radio et sera rediffusée en fin de semaine sur Fréquence Mistral et sur la RAM 05 à Embrun. Merci d'être venu pour ce ciné-débat à l'Eden Studio à Briançon. Cette discussion s'inscrit dans la tournée dans les Hautes-Alpes du documentaire Transition, un raid anthropologique dans le Kéra, une tournée co-organisée donc par Fréquence Mistral et la RAM 05. Ce documentaire que nous venons de voir a été réalisé par Yann Bornier et Michael Chambru, ici présent. Pour les auditeurs et auditrices, le film explore brièvement le Kéra et son histoire, la façon dont le tourisme s'y est développé et ce qui le lie aujourd'hui aux activités économiques. Et dans cette discussion, nous parlerons de l'évolution du tourisme et de l'agriculture dans le territoire du Briançonnais et aux alentours, ainsi que de leur place dans l'économie locale d'hier, d'aujourd'hui, et nous essaierons de penser à celle de demain. Donc pour cet échange, nous avons le plaisir d'avoir avec nous, donc je l'ai cité précédemment, Michael Chambru, enseignant-chercheur en sciences sociales à l'Université Grenoble-Alpes et coordinateur scientifique du laboratoire d'excellence, innovation et transition territoriale en montagne. Élodie Lefebvre, directrice de l'Office du tourisme des Hautes-Vallées et Sylvain Martin, maraîcher à Valouise. Nous prendrons également des questions du public, donc j'ai prévu des temps de pause où je vous solliciterai si vous avez des questions. Ce sera un peu par thématique. On va voir aussi où la discussion nous mène. Il y a beaucoup de sujets à aborder, ou nous essaierons en tout cas d'en aborder un maximum. Et ce sera Maxime, donc, qui a la technique, qui pourra passer le micro. Je réactualise un petit peu. L'économie de la montagne fonctionnait essentiellement sur une base d'élevage et d'agriculture jusqu'aux années 60 et l'arrivée des stations de ski. Cette dernière a bouleversé les équilibres économiques dans les vallées en faisant disparaître un certain nombre d'acteurs économiques dont beaucoup se sont reconvertis dans l'accueil des touristes ou le tourisme. Le changement climatique rend visible aujourd'hui la limite de ce modèle économique et oblige à penser à d'autres solutions. Deux grands axes sont envisagés d'une manière générale, faire tenir le modèle basé sur le tourisme ou amorcer une évolution vers une économie alternative faisant cohabiter des activités permanentes et pérennes, telles que l'agriculture, on en parlera, et l'élevage, ou une autre forme de tourisme qui reste à définir. Avant de commencer la discussion, je voudrais recueillir vos impressions, Élodie et Sylvain, sur ce documentaire. Qu'est-ce qui vous a marqué, touché, que vous voudriez partager? Je ne sais pas qui veut commencer.
Je peux commencer. Donc effectivement, moi j'ai la chance de vivre et de travailler sur un territoire qui, je pense, ressemble assez au Kéra, en tout cas sur certains points, et je l'ai reconnu. On a des expériences similaires, notamment quand il y a la partie qui évoquait le démantèlement de la station de ski. J'ai une partie de mon territoire sur Villard d'Arène qui a eu cette expérience-là, notamment avec l'équipement qui était au col du Lautaret, qui a été donc stoppé et démantelé, et sur Villard d'Arène où l'exploitation des téléskis a été arrêtée aussi, et où il a fallu réfléchir à la suite. Donc j'ai retrouvé des expériences qui étaient similaires sur les deux territoires. Et quand on se pose les questions, moi je me dis que nous on a peut-être déjà un petit peu pris conscience sur les territoires de ces changements et des changements qu'il faut faire au niveau du tourisme. Donc c'est intéressant de voir que d'autres territoires sont confrontés aussi à ces problématiques.
Moi, par rapport au constat là qui est fait un peu par tout le monde, je crois, dans le film, c'est un petit peu la façon dont chacun a d'aborder la chose et de se l'avouer ou pas, en fait, qu'il y a un système qui est tel qu'il est, mais qui finalement pose problème, et c'est peut-être ça, en fait, qui m'a le plus marqué. Ouais. Et il y a peu d'agriculteurs finalement qui parlent, mais je crois qu'ils en sont conscients aussi, quoi.
Pour commencer, j'aimerais poser ce qui existait en montagne avant l'arrivée du ski. Peut-être que, Michael, tu peux commencer par nous dire quelle était l'économie des montagnes avant ces stations de ski et le développement du tourisme en général.
Eh ben, il y avait plein de choses. Donc, en gros, l'activité principale, c'était l'activité agricole qui était présente. Alors, dans certaines vallées alpines, il y avait l'industrie aussi qui était assez importante, notamment dans les vallées savoyardes, où vous aviez les ouvriers paysans qui faisaient du coup la double journée. Et ce qui est important à avoir, c'est que le tourisme, il est arrivé progressivement. Souvent, on a l'image que le tourisme il est arrivé d'un coup, notamment le tourisme hivernal, la station de ski alpin, c'est les années 60-70 qui marquerait un basculement, une bifurcation. Mais le tourisme hivernal, il a commencé un peu comme on le voit dans le film sur les, ce qu'on appelle aujourd'hui les alternatives, de façon embryonnaire dès le début du XXe siècle. Et en fait, pendant 50-60 ans, le tourisme hivernal, c'était ce qui était dans les marges, ce qui était expérimenté, qui fonctionnait pas, qui économiquement ne tenait pas la route. Et il y a eu à un moment donné un choix politique qui a conduit à un basculement et une réorganisation, une réorientation du coup des territoires. Voilà, et ça, je pense que c'est un élément important du coup à avoir, et ça a provoqué un basculement, et où, en gros, où l'agriculture était l'activité économique principale, alors qu'elle était plutôt de l'agriculture vivrière d'ailleurs, et le tourisme est devenu hégémonique. Voilà, et aujourd'hui, on est dans cette situation-là, et se pose, mais on aura l'occasion d'y revenir avec du coup le changement climatique et ses effets, la question de la viabilité, de la pérennité de ce modèle de développement territorial basé uniquement, principalement, du coup, sur le tourisme, et la nécessité de peut-être aujourd'hui enclencher une nouvelle bifurcation comme il y en a eu dans l'histoire des territoires de montagne.
Donc on parle du tourisme, mais concrètement, quels sont les impacts de cette nouvelle économie qui est arrivée avec le ski? Il y a eu un impact déjà sur les modes de vie. Je ne sais pas si, Michael, tu veux répondre aussi peut-être de l'expérience que vous avez sur vos territoires. Élodie ou Sylvain, ça vous parle?
Ben, ces changements, c'est qu'on a vu au niveau des agriculteurs une nécessité, ou en tout cas une évolution vers une double activité, avec une activité liée au ski sur la partie hivernale, et où l'été, où ils repartaient sur leurs travaux vraiment directement liés à l'agriculture. Donc ça, c'est, je pense, une des évolutions assez marquantes qu'il y a eu entre les deux. Et peut-être aussi une réflexion à avoir pour eux de réfléchir, mais ça c'est peut-être plus dans les évolutions maintenant, mais à des moyens de diffusion et de des canaux de vente pour leurs produits en s'adaptant aux périodes de fréquentation et aux périodes plus calmes.
Au niveau des infrastructures, puisque cette économie s'est aussi accompagnée de beaucoup de constructions qui sont dédiées uniquement au tourisme, qui ont pris le pas sur d'autres activités, est-ce que vous vouliez peut-être ajouter?
Bah oui, sur le développement, ce que Michael a dit là, les années 60-70, où vraiment il y a eu des choix politiques forts en fait, qui ont fait que ça a basculé vraiment sur du tout tourisme, et notamment hivernal ici. Enfin, c'était une aubaine finalement pour des gens qui étaient paysans et qui gagnaient pas forcément hyper bien leur vie, dans des conditions qui étaient assez compliquées en plus. Enfin, c'était une aubaine en fait, et beaucoup au final, on laissait tomber en fait leur activité agricole pour s'orienter vers une activité touristique liée au ski. Alors aujourd'hui, on paye un petit peu tout ça parce que au final, ça n'a fait que pousser dans ce modèle-là. Et aujourd'hui, quand on se retrouve avec un prix du foncier qui ne fait qu'augmenter, alors là, je parle sur de l'agricole, et qui est corrélé au prix du foncier à bâtir, c'est les conséquences de ces choix-là à ce moment-là, en fait.
C'est des conséquences, mais est-ce qu'on peut dire que cette économie-là a permis d'enrichir aussi les territoires de montagne, puisque c'était une économie pauvre?
Du coup, ce qu'il faut voir en rebond avec ce qui a été dit, c'est que quand ce choix politique est fait dans les années 60-70, l'objectif, en partie, c'est de permettre aux gens de pouvoir continuer à habiter, à vivre et à travailler du coup dans les vallées alpines. Et si on regarde aujourd'hui, ça a permis effectivement du coup à des gens de pouvoir continuer à vivre ici. Donc ça a été une réponse à un moment donné. Et la question qui s'est posée à ce moment-là, parce qu'on avait des territoires, si je prends le Kera, dans les années 60, le territoire vit un exode rural important, et il y a des vrais enjeux, et c'est notamment ce qu'on évoque rapidement qui préside à l'amour de vouloir mettre en œuvre cette politique-là, c'est pour pouvoir permettre ça. Et aujourd'hui, en fait, le contexte est complètement différent, mais c'est à nouveau la même question qui se pose. Alors, à l'époque, c'était l'agriculture qui était balbutiante. Là, aujourd'hui, c'est, alors, à des échelles variées en fonction des vallées, des territoires, mais c'est le modèle touristique tel qu'il a été imaginé et tel qu'il fonctionne encore, mais dont on voit, dont on sait, dont on sent les prémices, que tel qu'il est aujourd'hui, il ne va plus pouvoir continuer à fonctionner. Et donc, se repose la même question qui s'est déjà posée par le passé de comment on va pouvoir continuer à pouvoir habiter et vivre dans son territoire, avec des enjeux importants qui sont, comme a été évoqué, le prix du foncier, mais la possibilité de pouvoir s'installer et de pouvoir aussi avoir d'autres activités qui ne sont pas nécessairement dépendante à 100% du coup de l'activité touristique. Et voilà, donc on retrouve au-delà des spécificités des enjeux aujourd'hui similaires et qui du coup appelleront, comme ça a été le cas par le passé, des choix politiques forts.
Mais ce qui est fou, c'est que ces choix politiques forts, ils ont été faits donc pour développer ces grosses stations, mais on voit bien sur notre territoire, même à Névache ou Servières ou à Valouise, des petites stations qui sont apparues par la suite. Pourquoi ? Quand est-ce qu'elles sont apparues et pourquoi sur ces territoires qui auraient pu peut-être se passer des stations de ski, tout le monde s'est tourné vers cela ?
Bah, le pourquoi, c'est qu'à un moment donné, il fallait ce qu'aujourd'hui on réfléchit pour diversifier en dehors du ski. Ça s'est posé la question dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'on fait en plus de l'agricole? Michael le disait, des activités annexes qui étaient testées, qui fonctionnaient pas. Il fallait trouver autre chose. Donc les petites stations, c'était pour compléter l'activité qu'ils pouvaient avoir. C'était aussi pour voir et faire un petit peu comme pouvait être fait à côté. Quand on voyait que le modèle fonctionnait sur des stations plus importantes ou chez le voisin, on s'est dit pourquoi pas nous et pourquoi on peut pas profiter de ce développement-là. Donc je pense que c'est une partie effectivement de l'explication de l'époque. Il y en a certainement d'autres qui viennent compléter ça, mais je pense que c'est une première. C'était une recherche de diversification de l'activité pour permettre aux habitants de vivre et de pouvoir faire fonctionner une économie locale.
Enfin, juste moi, je rajouterais qu'en fait, c'est on a créé ce modèle-là sur des petites stations, mais on a les mêmes conséquences que sur les grosses, en fait. Aujourd'hui, on se retrouve dans, et c'est dit à un moment dans le documentaire, c'est très fragile, en fait, tous ces systèmes-là. Et en fait, on s'aperçoit bien que gros ou petit, en fait, ça reste fragile.
Au-delà des stations de ski, il y a des vallées qui n'ont pas de ski ou juste quelques pistes, mais qui fonctionnent que sur le tourisme et qui sont aussi touchées, si je ne me trompe pas, par les conséquences aujourd'hui du modèle.
Oui, c'est qu'en gros, globalement, et c'est souvent, alors ça dépend des vallées, mais globalement, dans la plupart du temps, on a, si je prends le Kerat, mais on peut aussi prendre la Haute-Maurienne, qui sont des territoires un petit peu similaires, vous avez aujourd'hui 80% de l'activité économique qui est structurée par le tourisme hivernal, par le tourisme globalement. Donc du coup, forcément, quand cette activité touristique entre en crise, bah, ça déstabilise l'ensemble des autres activités qui vont en être dépendantes. Et ce qui est intéressant avec l'exemple du Kerat, c'est que très souvent, le Kerat est vu de l'extérieur comme un exemple, comme une sorte de marche à suivre. On a organisé pas mal de projections débats comme on a là, par exemple, dans la vallée de la Tarentaise. Et il y a souvent cet exemple, ah oui, mais le Kerat, ah, mais c'est le Kerat, ou on pourrait dire, ah, c'est la vallée de la Clarée. Et en fait, ce qui est intéressant avec le Kerat, c'est qu'aujourd'hui, on a souvent, le mot-clé qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est diversification touristique. Donc en gros, il faut sortir du tourisme hivernal, faire plus de tourisme été, et on résolverait tous les problèmes. Et l'exemple que nous donne le Kerat, c'est qu'en gros, aujourd'hui, le Kerat, en termes de nuitée, on est à 50-50. C'est-à-dire qu'on a autant de tourisme hivernal que de tourisme estival. Sachant que dans le Kerat, le tourisme estival, c'est 5 mois. Donc, c'est pas un mois et demi ou deux mois l'été. Et ce qu'on voit, c'est que et c'est un peu ce que évoquait Sylvain, c'est qu'on a la même dépendance à ce tourisme et à cette emprise-là. Et avec aussi tous les effets. Alors, il y a plein d'effets positifs, mais il y a aussi tous les effets indésirables qu'on retrouve derrière. Alors, il y en a qui sont évoqués, qui est la fréquentation massive de certains espaces et leurs effets écologiques, mais il y en a d'autres aussi qui concernent les humains et la possibilité à des jeunes, par exemple, de pouvoir s'installer dans ces territoires où c'est très compliqué avec le prix du foncier, le fait du nombre de lits qui est réservé au tourisme, à la location et la difficulté de pouvoir louer un logement. Et donc du coup, si on veut garder des territoires attractifs avec des gens qui puissent s'installer pour développer de l'agriculture ou d'autres activités, pour permettre d'avoir des enfants dans les écoles, maintenir des services publics, on a aujourd'hui une sorte de système qui tourne en rond, qui va un peu au bout, et à un moment donné, il faut y mettre un coup d'arrêt, enclencher une autre direction pour pouvoir que ces territoires ne deviennent pas uniquement, et c'est ce que évoque à la fin le maire d'Abriès dans le film, un endroit où on accueille des touristes et où on a des résidences secondaires et des gens qui viennent travailler pour permettre aux résidences secondaires et aux touristes d'être là. Donc la question, c'est comment on retrouve un nouvel équilibre. Et un équilibre qui, par exemple, dans le Kerat, a existé dans les années 70, dans les années 80. Voilà, donc c'est un peu ça aujourd'hui, un des enjeux, mais en ayant la lucidité aussi de se dire, et on le voit aussi à la fin du film, et moi je le vois un peu dans les différents massifs, vallées dans lesquelles je travaille ou mes collègues on travaille, ça veut pas dire qu'il faut se passer du tourisme et que du jour au lendemain on aura plus de tourisme. Je veux dire, c'est irréaliste, inenvisageable à court ou moyen terme de se dire du jour au lendemain plus d'activité touristique. Voilà, donc c'est une question d'équilibre.
Alors tu ouvres la porte, on en parlera après, on va reparler après de l'agriculture et donc de ce qu'on peut faire plus tard. Mais avant, je voudrais proposer au public de poser des questions sur l'évolution de l'économie, l'arrivée des stations de ski et l'impact que ça a pu avoir sur le territoire.
En termes de population, le Kera dans les années 60...
Ça dépend si on, à quelle période précise on prend, mais il y a eu... avant la partie d'exode au lendemain de la guerre mondiale, on était sur globalement 4000 habitants et ils ont réussi à maintenir environ 2000 habitants du coup à l'année dans les différents villages à partir des années 60. Alors c'est pas quelque chose de linéaire, ça fluctue, mais globalement aujourd'hui c'est la population qui a réussi du coup à être stabilisée, et avec la fluctuation qu'on voit avec l'activité touristique où en gros on multiplie par 10 la fréquentation du territoire sur environ la moitié de l'année, sur 6 mois. Et ce chiffre multiplié par 10, c'est globalement le chiffre qu'on retrouve, par exemple, si je prends un autre massif, dans les Alpes du Nord, dans les Aravis, on retrouve aussi cette multiplication globalement par 10, je sais pas, dans les autres, dans la Clarée ou ouais, la Grave, si on est sur ces échelles-là.
On est sur ces échelles-là avec effectivement des pointes, alors plutôt estivales pour la vallée de la Clarée et plutôt hivernales sur du côté de la Grave, mais c'est une moyenne qu'on retrouve effectivement sur ces secteurs aussi.
Par contre, la population agricole, elle n'a fait que baisser. Enfin, voilà. Après, c'est pas spécifique au Kera ou c'est général, mais d'autant plus, en fait, je pense que je connais pas les chiffres sur ces périodes-là, mais ça n'a fait que baisser, quoi.
Et par rapport à ce que tu évoques, la difficulté, c'est qu'il y a une tendance, depuis quelques années, de jeunes, d'habitants qui voudraient venir s'installer, qui sont par exemple arrivés par une saison ou par le tourisme à travailler dans le Kera, qui voudraient du coup s'installer durablement sur le territoire et qui en fait n'ont pas les capitaux, n'ont pas les moyens de pouvoir le faire. Donc au mieux ils redescendent dans la vallée de la Durance en bas, ou alors ils partent ailleurs. Et donc là il y a un vrai enjeu. Et aujourd'hui vous avez plusieurs mairies. Alors vous avez le maire d'Abriès, mais aussi à la mairie de Saint-Véran, où ils essayent de se saisir de ce problème, mais avec les moyens limités qu'a aujourd'hui le maire d'une commune de 300 habitants avec le budget qu'il a et de tout ce qu'il a du coup à gérer. Et c'est ça qui est vraiment pas évident, quoi.
Je rebondis alors sur le foncier. Xavier Letry, dans le documentaire Chargé de l'agriculture au parc du Kera, évoque les tensions entre agriculture et tourisme, donc au niveau du foncier notamment. Est-ce que toi tu observes cela dans la vallée de Valouise ou les autres agriculteurs?
Enfin, c'est pas spécifique au Kera, en fait, hein. C'est national, voire international, en fait. C'est le problème de l'agriculture. Après, c'est plus prégnant ici parce que, on voit très bien, hein. Enfin, les terres arables, celles qui sont fauchables, le plus facilement utilisables, c'est là où on construit, en fait, hein. C'est pas là où c'est le plus compliqué d'accès. Donc, au final, la concurrence, elle se joue là. Et puis, ça implique beaucoup d'autres choses derrière, en fait, notamment la concurrence entre agriculteurs, hein, tout simplement. Alors, on est de moins en moins nombreux. Il faut de plus en plus de superficie, mais il y a une concurrence foncière en fait qui est énorme, que ça soit, à un moment c'est évoqué, je ne sais plus qui le dit, mais voilà, un PLU c'est un trait à un moment, donc celui qui a pu vendre 300 euros d'un côté et qu'aujourd'hui on lui en propose 1,50 € de l'autre, il se dit dans quelques années ça changera certainement. Donc en fait ça pousse à spéculer tout ça, et en fait d'outils réellement efficaces, il y en a pas beaucoup. Il y a la SAFER un petit peu, mais avec des moyens qui sont limités. Et réellement, une fois que c'est bétonné, ça reviendra pas à de l'agricole. Donc, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience qu'il faudra avoir, et notamment de la part des élus, parce qu'il faut que ce soit eux aussi qui poussent dans ce sens-là pour arriver à ça, parce que sinon, on n'arrivera pas à garder une agriculture qui puisse faire vivre leurs paysans sur des territoires comme le Kera ou qui sont assez éloignés finalement des fonds de vallée, et avec une telle spéculation, en fait c'est pas possible.
Est-ce qu'il y a des échanges avec les élus ou avec les autres acteurs économiques lorsqu'il y a de tels projets qui sont prévus?
Alors, je vais parler pour ce que je connais, hein, mais non, peu. Peu, il y a vraiment peu de... Alors, si les agriculteurs s'impliquent, souvent, ben voilà, ils s'imposent un peu. Sinon, non, enfin, il y a quand même très peu souvent. Alors, par le biais des SCOT, un petit peu, enfin, il y a quelques cas qui fonctionnent. Après, il y a quelques exemples aussi qui ont très bien fonctionné, voilà, sur des créations d'AFP, de choses comme ça. D'outils qui permettent justement de conserver du foncier, mais au final le foncier le plus avec le plus gros enjeu, c'est le foncier de fond de vallée, et là où on a une station et puis en bas on va construire les chalets, les gens vont faire les allers-retours, voilà, et en fait sur cet enjeu là pour l'instant il n'y a pas grand monde qui peut se mouiller, quoi.
Oui, en même temps, est-ce que l'activité agricole ne dépend pas du tourisme? C'est évoqué dans le documentaire. Pour les débouchés, par exemple, s'il y avait moins de touristes, est-ce que les agriculteurs arriveraient à autant vendre leur production?
Alors, pas forcément. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des endroits. Mais c'est une conséquence aussi, en fait, du tout tourisme. C'est ce qui a été expliqué à un moment sur le Kera. Ben oui, Nestlé est arrivé quasiment en même temps que la création de la station. Au final, tout l'est parti. Et puis, on se retrouve avec bientôt plus de laitiers dans le Kera. Et puis, le débouché tourisme, c'est bien, mais c'est hyper court pour l'instant dans l'année. Et en fait, une vache, elle fait du lait toute l'année. Donc, il faut avoir des débouchés toute l'année. Alors, je prends l'exemple du lait parce que c'était le Kera. Hein. Mais il y a d'autres. Moi, je suis maraîcher. Voilà. Enfin, on peut pas baser une activité agricole uniquement sur des périodes saisonnières. Et qui plus est, en voyant l'évolution, enfin voilà, du climat avec de moins en moins de neige. Des fréquentations qui sont peut-être aléatoires. Enfin voilà, c'est compliqué en fait de partir, de dire je vais m'installer comme paysan au fin fond du Kera ou au fin fond de la vallée de la Clarée, et puis en ne sachant pas comment je vais commercialiser, parce qu'on est quand même un peu loin aussi des grands centres, voilà, qui peuvent être ou le Briançonnais ou le Guillestrois, voilà.
Élodie, tu voulais réagir?
Oui, mais c'est effectivement ça, c'est que les activités, les pics touristiques, ils sont sur certaines périodes. Les agriculteurs, pour nous, au niveau du tourisme, c'est un vrai complément pour la mise en promotion des territoires, puisque on a des gens qui viennent dans nos territoires pour découvrir les personnes qui y vivent et qui y travaillent et qui ont un savoir-faire. Donc effectivement, c'est pour nous, c'est un vrai avantage. Par contre, effectivement, pour l'agriculteur, ça l'oblige aussi à organiser et à pouvoir anticiper cette fréquentation qui peut monter sur certains moments, mais il faut aussi qu'il organise le reste de l'année. Donc effectivement, c'est des contraintes qui sont pas évidentes et qui sont réelles.
Je reformule au micro une question, ou plutôt une remarque qui vient du public. Les touristes viennent pour découvrir ce qu'il existe ici, les modes de vie des habitants. Or, il y a de moins en moins d'habitants à l'année, donc petit à petit, le risque est qu'il n'ait plus rien à découvrir finalement.
Il y a effectivement peut-être des agriculteurs, comme le disait Sylvain, c'est une économie qui peut bouger. Moi, si les personnes qui viennent sur nos territoires, donc moi, au niveau de l'Office du tourisme des Hautes-Vallées, donc pour situer, parce que c'est peut-être pas une évidence pour tout le monde, on couvre la vallée de la Clarée, la vallée de la Haute-Tromanche, donc la Grave et Villard d'Arène, et le secteur de Servières, Villard-Saint-Pancras et puis Saint-André, puis Saint-Pierre. Donc si nous, les gens qui viennent sur nos territoires, et on le voit au niveau des bureaux d'information, alors c'est bien sûr plus flagrant l'été que l'hiver, ça je le conçois, mais ça c'est aussi quelque chose qui est en train d'évoluer. Ils viennent et ils veulent découvrir, et donc ils nous demandent les visites, ils nous demandent les producteurs qui vendent à la ferme, ils sont et on voit et on a les retours des sociopros dans ce sens-là, ceux qui organisent des visites de ferme, ceux qui font de la vente, ils ont ces personnes-là, ils ont le retour des clients, ils sont vraiment avides de découverte. Le patrimoine, ça vient compléter ça. Donc si nous, on a encore des personnes qui font le choix de venir ici pour la beauté des territoires, leur tranquillité et la nature qui est préservée, et pour les personnes qui y habitent. Espérons que ça dure, mais en tout cas, pour l'instant, on en a.
Et du coup, peut-être en complément de ça, de l'échange là qu'on a, je trouve que ça pose une question un petit peu plus transversale qui est de se dire que nos hautes vallées alpines, quelle vocation ont ces territoires de montagne? À quoi ils servent? Et surtout, comment ceux qui décident, et notamment ceux qui ne vivent pas dans ces territoires et qui assignent des missions à ces territoires, voient ces territoires-là et comment nous, vous qui les habitons, on veut s'en réemparer. Et en gros, si pour dresser de lignes, on a tendance à avoir vu et à avoir aménagé du coup ces hautes vallées alpines avec deux logiques. L'une, il faut aplanir la montagne pour la traverser de métropole en métropole, avec des aménagements routiers, des aménagements ferroviaires. Voilà, donc ça, c'est une des premières tendances. Et la deuxième, c'était que nos hautes vallées alpines, elles avaient vocation à accueillir des touristes et à développer l'activité touristique pour permettre à ceux qui vivaient notamment dans les centres urbains de pouvoir venir avoir des pratiques récréatives. Et là, et je trouve qu'une des questions qui est soulevée là, c'est de se dire, est-ce que nos vallées alpines ne peuvent pas aussi faire autre chose, avoir un autre rôle? Et du coup, qu'est-ce que ça implique comme décision? Et si je refais un lien avec l'agriculture, hier, on a organisé, comme ici, une projection, débat, discussion à Névache. Et voilà, on discutait à Névache, on a abordé la question de l'agriculture, et voilà, à Névache, la maire de Névache était là à la discussion, et il nous disait, ben voilà, dans 3 ans, il n'y a plus d'agriculteurs à Névache, c'est fini, il n'y a plus d'agriculture dans la haute vallée de la Clarée. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on l'accepte et on se dit, bah ok, c'est pas grave, il n'y a plus d'agriculture de la haute vallée, c'est plus un problème, de toute manière, on a tout. Ou on se dit, en fait, pour le devenir de ces territoires-là, c'est important, du coup, d'avoir des agriculteurs. Donc, du coup, ça veut dire des décisions politiques, des choix politiques, qui permettrait de faire ce truc-là. Voilà, donc ça c'est des questions que les habitants, que nous pouvons nous emparer.
Je propose qu'on prenne les questions du public. Attendez juste le micro, voilà, pour qu'on puisse enregistrer les questions.
On parle là de notre région et je voudrais savoir, moi, s'il y a une spécificité de notre région, puisqu'on parle de transalpine, on parle de montagne. Est-ce que, par exemple, dans d'autres pays transalpins ou, par exemple, dans les Pyrénées, c'est une spécificité différente? Si oui, sur quoi repose-t-elle, cette spécificité? Et sinon, comment les autres abordent la transition de leur côté? Et quand on est dans un schéma décisionnel, est-ce que, par exemple, le foncier chez nous est spécifique et est différent des autres pays? Est-ce que la façon que l'on a d'évoquer les questions politiques se gère différemment? Est-ce que ça fait aussi partie d'une spécificité régionale?
Ça, c'est une vaste question. Pour répondre en 2 minutes, ça va être pas évident. Si je parle à l'échelle de la France et en différence, en essayant de comparer rapidement les Alpes du Nord et du coup les Alpes du Sud, cette question appelons-la transition du modèle de développement territorial en montagne, elle se pose partout et chaque territoire est en train de s'y confronter. Alors avec à des moments différents dans ce choc-là. Aujourd'hui, autour de Grenoble, vous êtes en Chartreuse ou vous êtes dans le Vercors, pour parler de 2 massifs préalpins. Là, cet hiver, vous vous avez pris de façon assez violente le fait qu'il n'y avait pas de neige et que ça mettait en crise le modèle des stations de ski, avec des menaces, des possibilités de fermeture rapidement à court terme. Et avec l'idée qu'on n'a pas anticipé et qu'on ne s'est pas préparé à... Voilà, donc ça va être une de ces réalités-là. Ces questions-là, elles se posent aussi, par exemple, dans la haute vallée de la Tarentaise, y compris où ils ont encore de la neige et où ils ont plus de temps pour s'adapter, mais ils commencent à des endroits à bouger. L'exemple, là, quand on était à Bourg-Saint-Maurice, la station des Arcs, donc qui n'est pas une petite station de ski, et ben, il y a eu le maire de Bourg-Saint-Maurice, dont dépend la station, qui s'est fait élire... sur des positions politiques qui, par exemple, un moratoire sur toute construction de nouvelles constructions touristiques aux Arcs. Voilà. Donc ça, quand on parle de qu'est-ce que de décision politique possible, alors ça n'a pas tout changé. Il y a toujours autant de touristes l'hiver qui vont aux Arcs. Mais c'est aussi dans des dimensions symboliques, voilà, des éléments de choses qui peuvent, qui peuvent bouger. Et peut-être donner un dernier exemple pour rester sur le lien avec l'agriculture. Dans la petite anecdote, on avait organisé une projection comme ça dans la haute vallée du Bail. Voilà. Et juste après cette projection-là,
j'allais faire une projection à Rèche-Beaufort. Et on discutait à agriculture. Et quand on était dans la Haute-Vallée de Lubaye, les gens disaient « Ah oui, mais attends, tu vas dans le Beaufortin, ça n'a rien à voir. Eux, ils ont le Beaufort, c'est trop facile. Ils ont une AOP, ça marche super bien. Ils ont déjà un peu la solution. » Et je leur disais « Non, mais attendez, c'est beaucoup plus compliqué parce que le fait qu'il y ait une monoculture de Beaufort avec l'effet d'AOP et l'emprise que du coup a ça sur le territoire, ça pose tout un tas d'autres problèmes. » Et 10 jours après, j'étais dans le Beaufortin à Arèche, on organisait ce truc-là, il y avait des paysans, des agriculteurs dont certains n'étaient pas producteurs de Beaufort et eux voyaient la monoproduction de Beaufort, la monoactivité comme un problème parce que notamment sur la question du foncier, c'était très compliqué pour pouvoir installer du maraîchage. Quand bien même, il y avait des gens qui voulaient s'installer ou des agriculteurs producteurs de Beaufort qui voulaient du coup se reconvertir. Et ça, on le voit aussi dans le massif des Bauges avec la tome des Bauges. Voilà. Et en fait, le commun, je trouve, à tout ça, c'est l'idée d'une monoactivité économique qui est du coup hégémonique sur un territoire. Et du coup, ne pas penser la pluralité et du coup la complémentarité qui est ce qui, en gros, permet d'avoir de la souplesse, de la flexibilité, de l'adaptabilité. Et c'est ça qu'on va avoir besoin dans les 10 ans, dans les 20 ans, dans les 30 ans à venir, que ce soit pour le ski alpin, pour l'agriculture ou pour toute autre activité, c'est de pouvoir être adaptable, notamment aux effets du changement climatique et à leurs conséquences.
Je reprends la dernière question puisqu'il n'y avait pas de micro pour qu'on puisse entendre à la radio. Un intervenant donc qui s'interroge sur quelle autre activité on pourrait trouver qui puisse remplacer le ski, sachant que le ski est quand même un secteur qui emploie énormément sur ce territoire.
Alors, pour te dire ce que nous on voit en tant que chercheurs autour de cette question-là, clairement, il n'y aura pas une autre activité économique qui remplacera l'activité ski alpin en termes de chiffre d'affaires et en termes d'employabilité de personnes. Je veux dire, clairement. Donc, ça veut dire qu'il faut changer, il faut arriver à trouver une solution, parce qu'on n'a pas le choix de trouver une solution, mais en raisonnant avec un autre logiciel. C'est ce qu'on essayait de dire, nous, en faisant une sorte de pas de côté, et en essayant de se dire, bon, en fait, on n'aura aucune activité. Le VTT ne remplacera jamais, on n'arrivera jamais. Ah, peut-être une station, mais même une station, on n'y arrivera pas. Donc, c'est de dire comment on fait au moins aussi bien, voire mieux, avec moins. Et il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution magique. Et donc, il faut l'inventer, il faut la réfléchir, et il faut essayer de changer nos façons de penser, changer comment on envisage les problèmes pour imaginer des réponses nouvelles. Parce qu'autrement, on ne s'en sortira pas. Et la difficulté, et après, je laisse rebondir dans la salle, de ne pas s'en sortir, c'est que si on ne l'a pas anticipé et on l'a préparé, c'est ce qu'on voit dans le film à Aiguille. À Aiguille, leur station elle a été fermée du jour au lendemain. Alors en plus, avec la particularité à Aiguille, c'est qu'ils avaient encore de la neige. C'est pour des questions économiques qu'elle a été fermée comme d'autres stations du Kera. Et en fait, en 3 mois, on leur a fermé la station. Personne ne s'était préparé. Et c'est une hécatombe quand ça se passe comme ça. Et moi, ce que je viens de dire, l'enjeu, c'est d'éviter ça. Alors en plus, on peut, grâce à des modèles, il y a plein de collègues qui bossent là-dessus, prévoir, un peu anticiper combien de temps, alors même si les récents aléas météorologiques nous montrent que en fait, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait, mais on peut anticiper sur 2, 5, 10, 20 ans pour ne pas se retrouver d'une transition qui serait subie, où on serait dos au mur. Parce que si c'est ça, ceux qui ont le plus à perdre, c'est ceux qui aujourd'hui vivent principalement de l'activité du tourisme, et notamment du tourisme ski alpin. Parce que c'est eux qui vont tout perdre. Tu vois, d'où l'enjeu pour moi de se mettre ensemble, ce qu'on fait un peu là, d'en discuter, et puis voilà.
La question était bonne parce qu'en effet, l'expression que vous n'avez pas utilisée pour l'instant, c'est l'or blanc. Et en effet, le problème, c'est de transformer l'or blanc en or jaune, or vert, or orange. Et en effet, il n'y a pas cette solution-là. La deuxième expression que vous n'avez pas utilisée, c'est celle de sobriété. Parce que finalement, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il va falloir en passer par là. Et c'est ça qui est difficilement entendable pour tout le monde. Réellement, et sur notre territoire, moi je préside donc le pays Grand Briançonnais qui regroupe le Kera, le Guillestroy, les Écrins et le Briançonnais, 36 communes du territoire. On est sur un programme de l'État qui s'appelle le plan Avenir Montagne qui a sélectionné 62 territoires de montagne pour envisager la transition. Au début, le ministère nous a dit, mais qu'est-ce que vous allez trouver pour switcher
est passé de l'or blanc à un autre or. Mais non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et c'est vrai que l'enjeu est complexe, surtout pour des stations de haute altitude. Chez nous, et on a des vrais clivages sur le territoire du pays Grand-Briançonnais, parce qu'à la fois, on a des stations de basse et de moyenne altitude, puis on a des stations de haute altitude, pour lesquelles il y a eu l'étude Clean Snow, qui a été mal d'ailleurs synthétisée et qui a fait penser que de toute façon, il n'y avait pas de problème à se poser. Il y aurait de la neige en 2030, donc on continue sur le même modèle. Et donc, on est vraiment confronté à ces difficultés-là et ce n'est pas simple d'arriver à faire travailler le territoire sur ces sujets-là. Donc, Élodie le sait parce qu'on travaille ensemble là-dessus. Derrière, c'est des peurs, énormément de peurs. Les offices du tourisme, les élus, les citoyens, les socioprofessionnels ont peur. Ils ont peur à un point que si on parle d'autre chose, si on parle de diversification, si on parle d'ouverture sur d'autres modèles, tout le monde se referme. Parce que c'est imaginer qu'on veut nier le ski. Et en fait, la difficulté à laquelle on est confronté, c'est ça. C'est d'arriver à faire parler ses peurs et à ce que petit à petit, les gens acceptent qu'on travaille sur des sujets qui permettront demain d'être plus résilients sur les territoires. Donc ça c'est le vrai sujet sur lequel on bute en ce moment et on avance, hein, Élodie, elle le sait, on avance, mais c'est complexe sur un territoire où il y a Serre-Chevalier, puis Saint-Vincent, etc., Montgenèvre. C'est quand même pas facile. Hein. Un autre aspect, vous avez parlé de l'agriculture, j'étais surpris que Sylvain n'en parle pas, parce que, en effet, le politique a des solutions. Oui, moi j'ai été maire depuis Saint-André pendant 12 ans et je m'y suis confronté. Et comme le dit le Shift Project, nous, les élus locaux, on a 25% à notre main. 75%, c'est des décisions qui viennent d'en haut. Et là, en l'occurrence, Sylvain n'en a pas parlé, mais clairement, les subventions de la PAC nous plombent. Mais nous plombent à un point que même si vous avez le foncier, vous ne pouvez pas le mettre à disposition de nouveaux agriculteurs sur le territoire. En plus, quand on sait que sur le territoire des Hautes-Alpes, entre 85 et 95% des revenus des agriculteurs, c'est la PAC. Sur mon territoire, il y a un agriculteur, c'est 375 000 euros à la PAC pour trimballer 1 200 brebis et 30 vaches. C'est 375 000 euros de subvention de la PAC. Comment lutter en tant qu'élu local face à ça? Alors, en effet, on crée une AFP. On a une AFP sur Puy-Saint-André, 1000 hectares, 3200 parcelles, 287 propriétaires qui nous menacent de mort. C'est ça qu'on a en face de nous. Donc, on arrive à installer à la marge un maraîcher, on bricole. Mais la massification, la généralisation de la transition écologique, on s'apprend en pleine gueule parce que, justement, nous n'avons pas les outils pour transformer les choses. Alors, la symbolique est importante, hein, sur le dernier Scott de la CCI.
Je suis désolée, je vais me permettre de vous couper. Oh. En fait, on a un temps assez court, j'aimerais bien prendre quelques questions. Il nous reste seulement 10 minutes. Je vois plein de mains qui se lèvent.
Oui, bah, j'ai une question, parce que moi, je vis effectivement là où il y a du béton. Donc, c'est irréversible pour les questions que l'on se pose ce soir ici sur la transition. Et je m'interroge parce qu'on est dans une course en avant avec la bétonisation à outrance. Donc, il serait peut-être temps de fermer cet élan. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas peur. Il y en a beaucoup dans la vallée qui ont peur. Il y en a d'autres qui n'ont pas peur de faire des immeubles et puis d'être dans la promotion immobilière. Et puis quand j'entends la transition, c'est la fuite en avant. C'est-à-dire que pour les stations, c'est aller chercher plus haut la neige, c'est de construire des immeubles parce qu'on justifie la remontée mécanique, etc., etc. C'est-à-dire c'est la course sans fin. Mais il y a aussi, le copain disait et parlait de, là-haut de l'État et du processus décisionnel, mais les règles aussi, la taxe foncière d'équipement, les maires qui sont coincés, qui ne voient qu'avec des nouveaux immeubles, on peut renflouer les caisses immédiatement, la course en avant, elle continue aussi. Donc il y a plein de règles à changer. Et il y a une règle, moi, qui me fait peur, c'est celle qui nous attend en 2030, là. Faut peut-être qu'on aborde un petit peu après, ce volet de ce qui nous attend dans la course effrénée moi j'appelle ça de la démence, je veux dire, où il faut réfléchir un petit peu plus loin de ce qui va se passer en 2030 ici, dans la vallée. Moi je ne prends que cette vallée-là, je ne parle pas de tout ce qui se passe en France. Et donc, je fais court, hein. Faut vraiment sauver l'existant, mais il faut aussi se bagarrer pour ne pas délirer dans un futur abominable.
Moi, ce que je vois là, de toutes ces deux interventions, en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de peur par rapport aux incertitudes. Michael, tu disais qu'effectivement, il n'y a pas de modèle qui existe. En fait, on est en pleine transition, donc on a tout à inventer. Je ne sais pas, peut-être, Élodie, comment ça se passe en interne ? Est-ce qu'il y a des réflexions qui sont faites sur ces sujets avec les acteurs du tourisme ? Est-ce que c'est déjà pris en compte ou pas encore trop ?
On l'a déjà pris en compte et c'est un travail un petit peu au quotidien. C'est pas facile parce qu'on a des hébergeurs, on a des prestataires d'activités qui ont toujours connu cette activité-là. Donc quand on leur demande de réfléchir, si on prend l'exemple d'un accompagnateur en montagne, aujourd'hui il s'agit plus que de prendre la personne et de l'emmener sur l'itinéraire qu'ils ont identifié ensemble. Il faut lui faire partager l'histoire du territoire, l'histoire de la faune ou de la flore pour l'été qui peut rencontrer. Donc c'est aussi, ça passe par de la formation. Il faut aussi que nous on apporte des preuves de la nécessité des demandes des clients, parce que les gens ne veulent plus, si on prend sur la randonnée pour randonnée, si c'est pour le ski, ils feront plus du ski forcément toute la journée. C'est pas facile à entendre pour un exploitant de remontée d'imaginer faire un forfait 2 heures de ski, parce que la personne fera pas les 5 heures de ski comme il faisait il y a 20 ans. Donc c'est un travail au quotidien, on est dedans et ça commence à porter ses fruits et on a des offres touristiques qui commencent à sortir un petit peu différentes. Mais ça prendra du temps et comme le disait Pierre tout à l'heure, c'est vraiment une peur et une inconnue, et parce qu'on n'a pas forcément imaginé autre chose avant et qu'aujourd'hui qu'on est plutôt face au mur, et ben il faut aller vite et l'entendre rapidement. Mais nous, en tout cas, voilà, on y travaille et il y a encore du chemin, mais c'est en cours.
Je vais continuer sur les mauvaises nouvelles. Mon collègue, là, il a évoqué 2030, c'est-à-dire en fait les Jeux Olympiques. Mais alors donc, vous avez exposé pendant pas mal de temps et de façon brillante qu'en gros, on est dans une phase de recherche, de produire de nouvelles solutions, de nouvelles alternatives. Et là, d'un seul coup, j'insiste, on met un coup d'accélérateur pour renforcer le désastre. Donc, en fait, on tourne le dos à la recherche, en quelque sorte, à l'innovation sociale qui permettrait de commencer à faire émerger de nouveaux scénarios. Donc, ça serait quand même intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On n'en a pas entendu parler. C'est quand même, enfin, si, on vient un peu, mais on ne connaît pas un peu la position de la tribune. Mais j'ai une autre question. Mais dans toute cette diversité, il n'y a quand même pas des villages ou des collectifs ou est-ce qu'il y a des expériences quand même qui ouvrent quelques pistes ? Est-ce qu'il y a quelques ZAD quelque part ? J'en sais rien, moi, mais qui... Oui, ce n'est peut-être pas du tout pareil que sauver les... du côté de Nantes, j'en sais rien, mais quelles sont les expériences qui peuvent être intéressantes en région montagneuse. Vous, les chercheurs, qu'est-ce que vous avez vu ? Est-ce que pour le moment, vous n'avez pas trouvé grand-chose ? Non, mais ce n'est pas une critique. Mais non, ce n'est pas une critique.
Bah déjà, ce qui est sûr, c'est que les ZAD en montagne ne permettent pas de créer de l'activité économique et de faire vivre et travailler les gens dans les massifs. Ça, je peux le dire avec certitude. Elles permettent d'empêcher des projets de se réaliser, mais elles ne permettent pas de faire vivre des gens. Je sais pas si c'est forcément la réponse que vous attendiez, mais voilà. Sur la question que vous posez autour de l'organisation des JO 2030 du coup dans les Alpes, je pense que c'est une question qu'on peut même élargir à spécifiquement la question des JO, c'est-à-dire que c'est la question de où on a fait de l'investissement d'argent public aujourd'hui, que ce soit pour les JO à l'horizon 2030, mais aussi tous les autres investissements, tout l'argent public qu'on investit pour des remontées mécaniques, pour du canon à neige, pour dans l'immobilier. Et ce qu'il faut avoir en tête par rapport à ça, c'est que tout l'argent public qu'on met aujourd'hui là-dedans, notamment au niveau des politiques régionales, on ne la met pas ailleurs. Donc ça, c'est déjà une vraie donnée qui est importante. Et c'est surtout, effet second de ça, c'est que tout l'argent public qu'on met pour renforcer le modèle existant, on complique la bifurcation vers l'autre modèle qu'il faut inventer. Et donc, du coup, plus on attend, plus c'est compliqué. Voilà, d'où l'idée de se dire qu'il y a urgence à agir. Voilà. Alors, vous allez me dire, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas apporté les solutions. Mais nous, les solutions, on ne les a pas. Si ce n'est, la première, moi, qui me semble importante à dire, c'est d'en discuter, d'en débattre, accepter de ne pas être d'accord, accepter d'être en désaccord. Parce que ce que ça demande aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'était comme ça qu'était posée la question des peurs, mais c'est que pour moi, les peurs, elles sont aussi de part et d'autre. C'est-à-dire que c'est accepter que la polarisation telle qu'elle s'est construite depuis plusieurs décennies en montagne, alors je caricature un peu, mais est-ce qu'on est pour ou contre le ski, pour ou contre la station ? En fait, c'est plus les questions d'aujourd'hui, c'est pas la question de 2024. Aujourd'hui, il y a des stations. Moi, j'aime bien dire ça, il y a des stations, elles existent. C'est un outil économique qui fonctionne. Il faudrait être vraiment stupide pour pas utiliser encore cet outil-là tant qu'il fonctionne pour aller vers autre chose. Ce serait se compliquer encore plus la tâche alors que c'est déjà assez compliqué. Voilà, donc du coup, il faut arriver à sortir cette polarisation-là, se confronter à ces désaccords, parce qu'en fait, il faut imaginer des nouvelles choses. Et en fait, personne ici dans la salle, personne ici sur cette tribune n'a la solution magique. Je ne sais pas ce que Sylvain il en pense, mais Sylvain, je ne sais pas, est-ce que tu imagines que la solution, il va y avoir des milliers de maraîchers dans la vallée de la Valouise et ça va sauver la vallée de la Valouise ?
Non, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. En fait, il faut pas qu'il y ait un modèle hégémonique, il faut pas qu'il y ait une culture hégémonique. Enfin, voilà, on sait que ça pose problème. Après, je vais juste réagir par rapport, au JO, au montant d'investissement, à l'argent public qui est injecté là-dedans, et le mettre en relation avec ce que Pierre disait, les 237 000 euros de PAC qui sont de l'argent public aussi, touchés a priori par un agriculteur. C'est tout à fait relatif. Je voudrais savoir les montants là qui sont. L'agriculteur, lui, je suis sûr d'une chose, c'est qu'il produit de la nourriture. Voilà. Enfin, c'est la différence. Voilà. Donc, refaire une petite balance après, si on en est arrivé là aujourd'hui avec le système de la PAC, c'est aussi parce qu'en fait, on a laissé partir tous les paysans. Parce qu'on aurait d'autres, chacun aurait pris sa place. Et en fait, pourquoi un paysan n'aurait pas plus le droit de vouloir vivre correctement, de quelque manière que ce soit, même si ça peut être critiquable, plus qu'un directeur de station ou n'importe quel loueur de matériel. Voilà. Enfin, je ne sais pas, moi, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas plus le droit que moins ou moins le droit qu'un autre. Voilà.
Ce sera le mot de la fin, il va falloir qu'on finisse cette émission. Non, mais c'est très bien, c'est très très bien. Eh bien, merci. Merci Sylvain, Élodie, Michaël. Merci aux intervenants, au public. Et merci à l'Eden Studio de nous avoir accueillis. Pour rappel, demain à Embrun, à 18h au cinéma Le Roc, le film est à nouveau diffusé. Il y aura également un plateau en direct. Vous pouvez l'écouter sur la RAM 05, ce sera animé par la RAM. Merci à tous et bonne soirée.